Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Onésime Mukandila.
Bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur la fréquence de la paix. En voici le sommaire. Le récent rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC a été examiné hier lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York. Occasion pour les 15 de commenter le dit rapport consacré à l'enquête sur les violations des droits humains dans le pays. Ouverture aujourd'hui de la deuxième édition de la foire agricole internationale de Kinshasa à l'Académie de Beaux-Arts. Les opérateurs du secteur agricole, les investisseurs et les banques planchent sur le thème « Entreprendre, innover et investir ». Le dossier, la revue de presse et le sport sont au menu de la seconde partie de ce journal. Voilà tout, mesdames et messieurs, pour son ossature. À toutes et à tous, bonjour. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité s'est tenue hier sur la situation en République démocratique du Congo. L'occasion pour les 15 de commenter le rapport du groupe d'experts chargé d'enquêter sur les violations des droits de l'homme dans le pays. Un groupe dont le coordonnateur Michael Sharpe et Zaida Catalan, chargé de questions humanitaires, ont été assassinés en mars 2017 dans la province du Kasaï central. La réunion s'est déroulée en présence des membres des familles des victimes assassinées auxquelles les intervenants ont rendu hommage. À cette occasion, la représentante permanente adjointe de la France auprès des Nations Unies a non seulement salué la mémoire des illustres disparus, mais elle a aussi exhorté les autorités congolaises à mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre. D'après elle, cet accord reste la seule voie de sortie de la crise que traverse la RDC. Coton Anne Guenen au micro de la radio onusienne à New York.
Cet accord, qui est le cadre agréé par toutes les parties congolaises pour la transition en vue de la tenue des élections, demeure la seule feuille de route crédible pour permettre une sortie de la crise que connaît le pays. Comme l'a rappelé ce Conseil dans sa déclaration présidentielle du 26 juillet dernier, il est urgent de mettre en œuvre l'accord en toute bonne foi et dans son intégralité. Il appartient aux autorités congolaises de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires afin que soient organisées, comme convenu dans l'accord, des élections crédibles et inclusives au plus tard en décembre 2017. Il est en particulier urgent que soit publié le calendrier électoral. La mort tragique de Zeida et de Michael nous rappelle, s'il en était besoin, la responsabilité que nous devons exercer collectivement pour faire cesser les violences en République démocratique du Congo. Un nombre exorbitant de civils y ont déjà perdu la vie. Face à ce risque intolérable, nous appelons tous les acteurs politiques congolais à la responsabilité et à une action déterminée pour respecter les engagements pris en décembre dernier. Il en va de la stabilité du pays et de ses habitants, mais également de la région tout entière.
Ma délégation tient à rassurer le Conseil de sécurité que les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo conformément au calendrier électoral qui sera publié par la CENI. C'est la réponse du représentant de la RDC à cette réunion au sujet précisément de la publication du calendrier électoral tel que réclamé par la France et d'autres partis. Le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères a indiqué que cela se fera après la rencontre imminente entre la CENI, le SENSA et le gouvernement. Autre précision apportée par le représentant congolais à cette rencontre, le calendrier électoral qui sera publié déterminera le moment exact de la tenue des trois élections, à savoir la présidentielle, législative nationale et provinciale, suivant un extrait de l'adresse de Cheo Kitundu au Conseil de sécurité.
La situation politique, comme vous le savez, reste dominée par la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016. En effet, à la faveur du dit accord, un gouvernement d'union nationale dirigé par l'opposition est déjà à pied d'œuvre. Les dissensions internes au sein de certains partis politiques de l'opposition, inhérentes à tout processus politique, n'enlèvent en rien au gouvernement de sa légalité issue de l'investiture par le Parlement national. Par ailleurs, la mise en place des membres du Conseil national de suivi de l'accord et l'adoption imminente de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de cet organe vont permettre au processus déjà enclenché de poursuivre sa marche pour l'organisation des élections. Aussitôt que le processus d'enrôlement sera achevé, le gouvernement demandera à la prochaine session parlementaire l'inscription en urgence de l'examen de la révision de la loi électorale et celle de la répartition des sièges. Ma délégation tient à rassurer votre conseil que les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo conformément au calendrier qui sera publié par la commission électorale nationale. national indépendant. Il va de soi qu'en conformité avec l'accord du 31 décembre 2016, la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil national de suivi de l'accord et le gouvernement évalueront très bientôt ensemble l'évolution des préparatifs pour apprécier la période exacte de la tenue de 3 élections programmées, à savoir la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales.
Sachez par ailleurs que Léonard Chéo Kitondo a affirmé que la RDC prend acte du caractère essentiel du rapport final du groupe d'experts sur le Congo à propos de 2 recommandations formulées par les experts et contenues dans ce rapport. Le représentant congolais a indiqué que Kinshasa juge inopportune la mise en place d'une enquête internationale indépendante sur l'assassinat de 2 experts. Quant à la demande de prorogation du mandat du groupe d'experts, la RDC estime que cette question a déjà été réglée dans la résolution 2360 du 21 juin 2017 du Conseil de sécurité qui prorogeait au 1er août 2018 le mandat du dit groupe. Ouverture aujourd'hui de la 2e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa à l'Académie de Beaux-Arts, mais dont la cérémonie officielle interviendra demain samedi. Pendant 10 jours, le ministère provincial de l'Agriculture et le Développement rural de Kinshasa met sous un même toit les opérateurs du secteur agricole, les investisseurs et les banques autour du thème « Entreprendre, innover et investir ». Au programme des rencontres B2B, des expositions de plus de 100 stand ainsi que exposition de quelques espèces animales. Magloire Kabemba, ministre provincial de l'Agriculture et Développement rural, explique au micro de Nadine Founasimba.
Elle vise pratiquement 4 objectifs. Le premier objectif est de présenter une vitrine des potentialités agricoles, aussi bien de la ville de Kinshasa que des autres provinces. C'est de présenter les innovations dans le secteur de l'agriculture, les résultats de recherche agronomique. Nous aurons 2 zones spécifiques. Il y a la zone FPI, donc où on va retrouver les opérateurs agricoles qui ont bénéficié du financement du FPI. Nous avons aussi la zone ANAPI qui va regorger tous les opérateurs qui ont bénéficié des avantages du code des investissements. Il y a la zone animale. La ferme Espoir particulièrement va exposer plusieurs espèces animales que les enfants, les Congolais pourront palper, toucher du doigt. Il y aura également tout un atelier qui sera organisé pour apprendre aux gens à faire en fait de l'agriculture familiale chez soi.
Un symposium scientifique de chercheurs de divers horizons se tient à Bukavu depuis hier jusqu'à demain dans l'enceinte de la Fondation Panzi du docteur Denis Mukwege. Cette rencontre au cours de laquelle les scientifiques échangent les expériences est organisée par le Centre international de recherche appliquée et en technologie, ICART. Le Centre ICART a été créé en 2013 par la Fondation Panzi et l'Université évangélique en Afrique, UEA, dans le but de renforcer les capacités des chercheurs locaux et internationaux. Jean Kassami pour le reportage.
Les participants au symposium de Panzi sont des éminentes personnalités scientifiques en provenance des continents d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. Ils sont invités par le centre ICAR, chapeauté par le professeur Kanigula Mubagwa, qui sollicite l'accompagnement des autorités congolaises.
Nous devons faire des recommandations à ceux qui organisent la société. Maintenant, il faut savoir, est-ce que les gens qui gèrent le pays veulent suivre les recommandations qu'on leur fait? Ça, c'est une autre question de la problématique à laquelle nous devons faire face.
Le centre ICAR, qui a son siège à Panzi, dans la commune d'Ibanda, à Bukavu, vise à mettre les chercheurs locaux en contact avec les experts internationaux. À force de côtoyer les grands scientifiques du monde, certains résultats sont déjà visibles au sein du centre ICAR, comme l'indique ici le gynécologue Denis Mukwege.
Des jeunes ont déjà fait des recherches, par exemple, qui mettent en évidence certaines pathologies et qu'on a eu l'habitude de traiter d'une certaine façon, mais que désormais, nous allons changer la façon de traiter ces pathologies, non seulement à la communauté congolaise, mais à la communauté internationale également.
Voilà ce qui pousse les recteurs de l'Université évangélique en Afrique à solliciter l'appui de la communauté nationale et internationale en faveur du centre ICAR. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
L'Académie des Beaux-Arts a abrité hier les festivités marquant le 10e anniversaire de l'ONG EARD, entendez African Initiatives for Relief and Development, dont 5 ans de présence en RDC. Jean-Pierre Elali Koko assistait à l'événement suivant son compte-rendu.
C'est dans cette ambiance festive que ARD a fêté ses 10 ans en présence de la représentante régionale du ACER et de nombreux invités. Après le mot de bienvenue du directeur général de l'Académie de Beaux-Arts, le directeur pays de ARD, Mouamadou Saliou Diallo, a retracé l'historique de cette institution et donné les objectifs.
Les objectifs peuvent se résumer en deux points. Concevoir, gérer et mettre en œuvre des programmes d'assistance et de développement tout en se focalisant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, d'eau et assainissement. Le deuxième point, c'est de promouvoir la protection et la recherche de solutions durables pour les personnes déplacées internes, les réfugiés.
Des objectifs atteints car, selon l'orateur, ARD compte aujourd'hui 20 programmes dans 9 pays en Afrique, dont de nombreuses réalisations en RDC. Mais auparavant, la secrétaire permanente de la Commission nationale pour les réfugiés a loué l'excellente collaboration entre son institution et ARD, professeur Berthe Zinga Ilunga.
Avec ARD, nous nous étions irrémédiablement engagés dans une extraordinaire collaboration dans le cadre d'une des missions les plus difficiles, mais réussies. Il s'agit du rapatriement des réfugiés angolais.
La cérémonie s'est terminée par la remise symbolique des 15 poubelles à l'Académie des Beaux-Arts et la visite des salles d'exposition d'œuvres d'art.
Les coordonnateurs des écoles catholiques du Grand Kassai assurent que la rentrée scolaire 2017-2018 sera effective dans leurs établissements. Ils l'ont fait savoir lors de leur troisième session ordinaire tenue du 15 au 17 août courant dans la cité de Luisa. Cette activité a été placée sous le thème « Les défis face au phénomène Kamuina Nsapu dans nos écoles aujourd'hui ». En quoi le coordonnateur des écoles conventionnées catholiques du Kassai central, la situation sur terrain évolue positivement après les violences dû à ce phénomène. Boniface Beya, joint par Blaise Ndongala.
La scolaire sera effective le 4 septembre. Toutes les dispositions sont prises et nous allons déjà organiser les réunions de préparation de l'année scolaire 2017-2018. Nous estimons que les communautés villageoises pourront se mobiliser pour le bien de leurs enfants à pouvoir réhabiliter les écoles tant soit peu pour que les enfants aillent à l'école. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous les parents à pouvoir se mobiliser avec les élèves aussi à pouvoir reconstruire les écoles. La population est fortement motivée. Elle dit non à la guerre. La population voudrait retourner à la vie normale. Nous avons vu même des villages qui étaient brûlés, incendiés, qui sont en train d'être reconstruits sur le tronçon de route.
Interrogé, la ministre de l'Éducation au Kassai central, Gabrielle Kamouni, croit également à une année scolaire normale et d'y compter sur l'implication de tous les acteurs. La Commission nationale de droits de l'homme, une institution d'appui à la démocratie antenne du Haut-Lomami, invite les acteurs et dirigeants politiques ainsi que la société civile à privilégier la paix et le respect des droits de l'homme. Son coordonnateur provincial l'a dit hier, à quelques jours de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, pour Yvan Oumba Kasongo, toutes les parties doivent respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales de chacun reconnu par la Constitution. Suivant, Yvan Oumba Kasongo, coordonnateur provincial de la CNDH au Lomami, joint par Jean Nando.
En toute cette période préélectorale et électorale des gouverneurs, en tant que coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme dans la province du Haut-Lomami, nous interpellons les autorités locales de la province du Haut-Lomami, la société civile et les partis politiques de développer la culture de la paix à la place de la haine tribale. La paix ne peut régner que là où les droits de l'homme sont respectés, là où les citoyens sont libres d'exprimer leur opinion. Nous devons donc tous veiller au respect des droits, des libertés publiques telles garanties par la Constitution. Parce que nous avons compris que dans la province, depuis qu'il y a organisation des élections des gouverneurs, il y a beaucoup de tractations, il y a des gens qui s'en prennent aux autres, donc il faudrait qu'on préserve la liberté, qu'on préserve les droits de l'homme.
Médecins sans frontières s'inquiète de la détérioration des conditions de vie des personnes déplacées autour de Kalemie dans le Tanganyika. Cette région dans le sud-est de la RDC est en proie aux violences interethniques depuis maintenant un an. Dans un communiqué de presse publié hier, MSF met l'accent sur la promiscuité, l'insalubrité et le manque d'eau qui rendent inacceptables les conditions sanitaires des déplacés du Tanganyika. Louise Anoud, chargée de communication à MSF, décrit les conditions de vie de ces populations déplacées. Elle a été jointe par Pélikipé Lamondo.
Vous savez, dans cette région, il y a environ un demi-million de déplacés, hein, 250 000 à peu près, qui sont dans la région de Kalehi, dans et autour de la ville, et les conditions sanitaires dans lesquelles ces personnes vivent sont tout à fait déplorables. Hein. Souvent, elles vivent dans des abris en paille, ou alors même sans abri en paille, simplement sous des moustiquaires, souvent sans tapis de sol, sans matelas. Les conditions sont très difficiles, là, c'est très difficile également, on accède à la nourriture idéalement. Nous, on est dans la région depuis avril. Tout d'abord, on a commencé par la rougeole et la malnutrition, et puis on a continué à développer un programme pour être désormais présent dans 17 sites de regroupement dans et autour de Kalehi, où on donne accès aux soins aux populations gratuitement, en donnant donc non seulement des consultations générales, mais aussi des consultations pour les femmes enceintes et allaitantes. Alors, nous, ce qui nous fait peur, surtout, c'est la saison des pluies. Hein. La saison des pluies qui arrive dans une région où le choléra est endémique, c'est assez inquiétant, notamment si les personnes n'ont pas accès à de l'eau potable.
Actualité Afrique Monde.
En Ouganda, le nombre de réfugiés sud-soudanais vient de dépasser 1 million selon des derniers chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR. Depuis la reprise du conflit dans les territoires de son voisin il y a plus d'un an, entre 1500 et 3000 personnes franchissent chaque jour la frontière vers l'Ouganda, dont la politique d'accueil des réfugiés a longtemps été présentée comme un modèle aujourd'hui en danger, car le flux ne s'arrête pas. Les sud-soudanais fuient la guerre et la famine, toute une partie de la population meurt de faim alors que le gouvernement consacre plus de la moitié de son budget à l'armement. Au Burkina Faso, à peine les familles ont commencé l'inhumation des victimes de l'attaque du café Aziz Istanbul que c'est un véhicule de patrouille du groupement des forces antiterroristes basées dans le nord du pays qui a sauté sur un engin explosif. L'explosion a fait 3 morts et 2 blessés. C'est la première fois que les groupes terroristes utilisent un engin explosif sur le sol burkinabé.